Bonjour, bonjour, Yves au micro de Divergence FM pour une nouvelle émission de 24 notes secondes, une émission consacrée à la musique de film, à cet art si particulier qui consiste à illustrer de manière sonore ou musicale les petites images qui bougent depuis maintenant largement plus d'un siècle sur les grands écrans et partout ailleurs, ou presque, voilà qui est rappelé à nos fidèles, voilà qui est appris à peut-être ceux qui nous rejoignent ce jour et celle dans 24 notes secondes. Bienvenue, welcome, welcome et tout ce genre de choses pour une émission qui sera ce jour consacrée, alors non pas à un immense compositeur, car une seule émission de 30 minutes n'y suffirait pas, mais à un aspect particulier de la carrière de Miklos Rossa, un compositeur américain, quoique né, comme beaucoup de compositeurs américains de l'âge d'or hollywoodien, quelque part en Europe de l'Est, un compositeur qui, dans les années 50, trouva une forme d'épanouissement musical et une célébrité qui était déjà grande, mais qui devint immense, avec un genre qui a connu, grâce au dénommé Russell Crowe et à son Gladiator, il y avait aussi Ridley Scott dans le coup, il faut bien le reconnaître, et puis un compositeur que je préfère oublier, un genre qui a connu une nouvelle renaissance, mais qui dans les années 50-60 fit la fortune d'Hollywood, le péplum. Et oui, alors difficile de définir très précisément le péplum, mais en gros, des hommes en jupette et qui n'ont pas l'air ridicules. C'est une façon comme une autre de le voir, un genre dans lequel Miklos Rossa s'illustra. Miklos Rossa, né à Budapest, en Hongrie, je ne l'ai pas dit, mais je l'ai évoqué, le 18 avril 1907, et qui, après des études au conservatoire, arrive à Londres en 1935 pour y composer sa première musique de film, en l'espèce celle d'un film réalisé par un Français, et oui, Jacques Feder, notre grand Jacques Feder, celui de la Kermesse héroïque, un film moins connu, j'avoue ne pas même l'avoir vu, qui s'appelait « Un chevalier sans armure ». Le chevalier sans armure. En 1937, eh bien, Miklos Rossa, pardonnez-moi, part aux États-Unis. Il suit Alexandre Korda, un grand producteur de cinéma, et il signe pendant la guerre eh bien, quelques magnifiques musiques, et notamment celle d'un film signé par Alexandre Korda, adaptation du roman de Rudyard Kipling, bien sûr. Ça s'appelait « Le livre de la jungle », et cela présente la particularité d'avoir était la première édition sur disque d'une musique de film. Et oui, ce n'est quand même pas un art si ancien, une pratique si ancienne. Ensuite, eh bien, Miklos Rossa tourne, en tout cas compose pour les plus grands, notamment pour Billy Wilder, avec Assurance sur la mort et quelques autres, pour Hitchcock lui-même et une très remarquée partition pour le docteur, la maison du docteur Edwards, pardonnez-moi, en 1945, pour laquelle d'ailleurs, maison, il obtint son premier Oscar. Il obtient le suivant 3 ans plus tard, en 1948, pour celle d'Othello de George Cukor. Et c'est en 1951 qu'il fait sa première rencontre avec ce genre, donc le péplum, pour la partition d'un de ces films colossaux qu'Hollywood décide de bâtir pour lutter contre l'influence alors grandissante de la vilaine petite lucarne, la télévision, boue, qui de fait ne peut pas restituer les fastes des superproductions montées alors. Cette première superproduction, elle s'appelle Quo Vadis. Le réalisateur en est Mervyn Leroy. Les interprètes principaux, Robert Taylor, Deborah Kerr, Leo Gen, Peter Ustinov et quelques autres. On en dira un peu plus après, mais on va s'écouter un extrait de la bande originale avant. Un extrait donc d'une bande originale signée Miklos Rossa, Quo Vadis, ça veut dire qui va là, dans 24 notes secondes.
Thank you. know, and the way ye know.
Lord, we know not whither thou goest, Lord, we know not whither thou goest, how can we know the way?
I am the way, and the truth, and the life.
Ben c'est sûr, c'est toute la pompe hollywoodienne et j'aime trop la voix qui vous dit « I'm the way, and the truth, and the life ». Un extrait de la bande originale de Quo Vadis, une musique signée Miklos Rossa, le grand Miklos Rossa. Un film de Mervyn LeRoy tourné en 1951 et qui était loin d'être la première adaptation du best-seller d'Henry Sienkiewicz, qui doit être polonais à mon souvenir, puisque ce roman qui raconte bien une histoire de chrétiens quelque part dans l'Empire romain décadent, ce qui fut plus ou moins, je dirais, le cas de nombre de superproductions hollywoodiennes relevant du genre péplum dans les années 50-60, eh bien, la première, dernière adaptation au cinéma remontait à 1923, au muet. En 1949, eh bien, les studios américains et Louis B. Mayer en personne décidèrent de consacrer à ce film le plus gros budget du cinéma américain, tout simplement depuis « Autant en emporte le vent », tourné 10 ans auparavant. Le tout commença sous la direction de John Huston avec Gregory Peck et Elizabeth Taylor dans les rôles principaux. Mais finalement, ce fut Mervyn LeRoy, Deborah Kerr et Robert Taylor. Et, dit la petite histoire, personnellement, je ne l'ai jamais vu, Sophia Loren, quelque part dans les 5000 figurants des grandes scènes d'action. Et pour un film qui rapporta beaucoup, beaucoup plus d'argent à la MGM qu'elle n'en avait investi, comme quoi, de fait, c'était une bonne idée d'essayer de lutter contre la télévision en portant le combat sur un terrain où certes celle-ci ne pouvait pas lutter justement, c'est-à-dire des films avec d'immenses décors, des milliers de vrais figurants et non pas des figurants numériques comme dans Gladiator, et puis une histoire d'amour évidemment entre Deborah Kerr et le viril Robert Taylor avec des méchants, et le méchant du film, eh bien c'était tout simplement Néron, et oui, l'empereur Néron incarné par le goulayant Peter Ustinov qui visiblement s'en donnait à cœur joie pour une composition, comment dire, légèrement caricaturale du personnage. Ma foi, le tout porte le poids des ans et la musique aussi semble très datée, mais c'est l'occasion, comme nous le faisons ce jour dans 24 notes secondes, de rendre hommage à un grand compositeur qui trouva là, avec ce genre de film, le sommet de sa carrière. Et on va écouter tout de suite, on aura l'occasion de reparler après, un extrait de ce qui reste certainement l'œuvre maîtresse de Miklos Rossa et une des partitions emblématiques du grand cinéma américain, celle d'un film de William Wyler tourné en 1959 avec Charlton Heston dans le rôle principal. Alors peut-être les cinéphiles l'auront peut-être déjà reconnu, c'était tout simplement Ben-Hur, évidemment. Ben-Hur 1959, une célèbre course de chars sans musique. Bon allez, on y revient après. On écoute d'abord un extrait de cette bande originale, Miklos Rossa, dans 24 notes secondes.
Thank you.
Voilà un premier extrait de la bande originale du film monumental tourné en 1959 par William Wyler. Alors, vous l'avez compris, entre Covadis et Ben Hur, il s'est écoulé 8 années de succès à peu près constant pour le genre du coup. Ben Hur peut être considéré comme le péplum des péplums, un film gigantesque à tout point de vue puisqu'il dure plus de 3h30. Que là encore, eh bien, on a multiplié les décors, les costumes, les figurants, la musique évidemment, à l'aune, je dirais, de cette démesure pour l'histoire de Judas Ben Hur et de son amitié bizarre. D'aucuns, d'ailleurs, y voient maintenant plus qu'une amitié avec le dénommé Messala, un Romain. Un Romain, et d'abord ils sont amis, ensuite ils ne le sont plus. Et ensuite, eh bien, Ben Hur rencontre le Christ, je vous l'ai dit souvent. Dans les péplums américains, il y a le Christ. Mais évidemment, personne n'aura oublié la célèbre course de chars qui, la petite histoire en tout cas le dit, ne fut pas tournée par William Wyler, l'un des grands réalisateurs américains des années 50-60. Mais par deux spécialistes des scènes d'action. Et la dite scène demanda 3 mois de tournage à elle toute seule et avec évidemment un décor absolument gigantesque et un Charlton Heston absolument magistral pour un film qui n'était pas la première adaptation, pour les cinéphiles, du roman de Lee Wallace, un général, un roman qui s'appelle d'ailleurs de façon beaucoup plus précise Ben Hur, A Tale of the Christ, un roman sorti, pardonnez-moi, en 1880, qui connut dès cette époque-là un grand succès, puisqu'il y en eut plusieurs versions cinématographiques, et notamment une muette, tournée en 1925 par Fred Niblo avec Ramon Navarro dans le rôle principal. Alors, vous avez certainement oublié, si vous l'avez jamais connu, Ramon Navarro, mais il fut à son époque aussi connu que Rudolph Valentino. Comment ? Vous ne voyez pas qui est Rudolph Valentino ? Bon, et bien dans ce cas-là, on va passer à autre chose. Sic transit Gloria Mundi, disait déjà le sage, on peut être célèbre un jour et complètement inconnu, il est vrai, une centaine d'années plus tard. Eh oui, presque une centaine d'années plus tard. Je n'arrive pas à y croire. Ben Hur, par contre, en 1959, eh bien, à ma souvenance, on continue à le voir sur les écrans 50 et quelques années après son tournage, signe qu'avec ce récit et cette façon, eh bien, William Wyler avait trouvé un art universel de toucher les cœurs ou les foules. Là encore, les esprits chagrins dont je suis considéreront que Ben Hur sur un écran de télévisé si grand fait-il, eh bien, ça ne le fait pas forcément et que c'était sans doute mieux au cinéma. Mais même moi, je ne l'ai pas vu au cinéma, c'est vous dire. On s'écoutera un nouvel extrait de cette bande originale à la fin de notre émission, mais on va faire en attendant à nouveau appel au Christ, s'il nous pardonne, mais a priori, il est là pour ça, puisque c'est à lui seul que fut consacré en 1961 le Roi des Rois, The King, King of Kings, tout simplement, un film d'Nicolas Ray qui racontait, eh bien, l'histoire de Jésus, j'allais dire là encore, tout simplement, là encore, une super production de plus de 2h30, avec par contre des acteurs peu connus, et notamment le rôle de Jésus-Christ est tenu par Jeffrey Hunter, qui, à ma connaissance, n'a quand même pas fait fortune ensuite, en tout cas, au box-office. Et tous les autres, je regarde la petite fiche, eh bien, ils sont pratiquement inconnus, à l'exception notable du viril Robert Ryan, vu notamment chez John Huston, dans le rôle de Jean-Baptiste. Donc un rôle peut-être plutôt court dans le film. Là encore, eh bien, que dire si ce n'est que Nicolas Ray n'était pas non plus n'importe quel réalisateur, puisqu'il fut aussi celui de Johnny Guitar, celui du Traquenard, celui des 55 jours de Pékin, celui de La Maison dans l'ombre, et je cherche mon préféré, mais je ne le trouve plus. Ah oui, Les Amants de la Nuit, The Life by Night, son premier film en 1947, une petite merveille de film noir. Pour Le Roi des Rois, eh bien, sans doute le tout était plus impersonnel, mais ça nous permet d'écouter, et c'est le but, un nouvel extrait d'une bande originale signée de Miklos Rossa. On s'y lance donc, Le Roi des Rois, 1961, 24 notes secondes. Thank you. Le fast quasi-hollywoodien de Miklos Rossa pour la bande originale du Roi des Rois, un film de Nicolas Rey tourné en 1961. Un film produit par Samuel Bronston qui décida, ce fut vrai pour le Roi des Rois comme pour d'autres, de transporter cette fois quelque part aux environs de Madrid, de ses lieux de tournage. Covadis, par exemple, avait été tourné à Cinecittà, sauf erreur de ma part, donc à côté de Rome. Et Samuel Bronston décida de partir en Espagne pour se libérer justement des contraintes hollywoodiennes. Et sauf erreur de ma part, après le Roi des Rois, on vit le Cid avec à nouveau Charlton Heston dans le rôle principal et Sophia Loren et à nouveau Miklos Rossa à la baguette. Et puis on vit ce que beaucoup d'historiens considèrent comme le crépuscule du péplum auquel Miklos Rossa apporta son titre de gloire avec la chute de l'Empire romain, un film d'Anthony Mann qui fut une extrêmement coûteuse production pour un rapport commercial très faible, c'est-à-dire un film qui fit un flop. Eut pourtant une des partitions majeures de Dimitri Tiomkin. Et eh bien, la fin du péplum signifia quelque part le crépuscule de Miklos Rossa, puisque après cette dizaine d'années d'or, et notamment un Oscar pour Ben Hur, le troisième, donc après ceux déjà cités, eh bien, après ces années d'or, Miklos Rossa traversa le désert, enfin, fit une traversée du désert, pardonnez-moi, de laquelle il ne sortit jamais vraiment, même si ensuite on le revit avec son cher Billy Wilder pour La vie privée de Sherlock Holmes et Fedora, et aussi avec notre Alain René National pour Providence. Ma foi, on va rester pour conclure sur cette période faste en écoutant à nouveau un très large extrait de ce qui restera sa partition la plus monumentale, le péplum par excellence, la musique de péplum par excellence. Allez, on y va. Ben Hur, Miklos Rossa, 1959.
24 notes secondes, c'est fini pour aujourd'hui. Allez en paix, frères et sœurs. Au revoir, à bientôt. See you.
Bye bye.